L'immobilier, partie prenante de la mobilité renouvelée, une table ronde au service du développement de territoires plus responsables et plus désirables sur Radio Immo et Radio Territoria.
Bonjour à tous, le groupe RBRT, c'est le groupe de travail prospectif du plan bâtiment durable. Ils réfléchissent, ils échangent, ils émettent des notes et à travers ces émissions, on essaye d'en retirer la substantifique moelle. En tout cas, ce que peuvent comprendre les non-initiés et les un petit peu plus initiés parce que nos experts vont parfois en profondeur. Je vous les présente justement. Il s'agit de Christian Cléret, coprésident du groupe Réflexion Bâtiment Responsable et Territoire du plan Bâtiment Durable. Christian Cléret, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être notre invité. Avec nous également Éric Chariron qui est consultant en charge de la prospective au groupe Keolis. Éric Chariron, bienvenue.
Merci
de venir sur notre plateau de Radio Immo. Et puis Benoît Quignon, il nous vient de Marseille, délégué général de la ville de Marseille, ancien directeur immobilier du groupe SNCF, ancien directeur général des services de la ville de Lyon. Benoît Quignon, bonjour, ça va bien?
Bonjour.
Alors, ce groupe de travail, beaucoup de réflexions, beaucoup de sujets sur cette thématique large, l'immobilier, partie prenante de la mobilité renouvelée. Alors, on ne va pas refaire toute cette réunion, Christian Cléret, mais où en êtes-vous, sans être indiscret, dans vos réflexions, pour que l'on sache aujourd'hui quels sont les thèmes liés à la mobilité qu'on va aborder avec nos invités, s'il vous plaît?
Très rapidement, peut-être rappeler d'abord l'objet précis de ce groupe. Vous l'avez dit dans ses grandes lignes, c'est un groupe de réflexion permanent du plan bâtiment durable. Il existe maintenant depuis une dizaine d'années. Il a une vocation qui est de tenter. Je suis modeste dans l'ambition, mais néanmoins, on espère contribuer positivement, d'aider l'industrie immobilière à détecter les signaux faibles et à se saisir le plus en amont possible des sujets du futur. Donc nous avons beaucoup travaillé depuis ces dernières années sur quantité de sujets liés à la responsabilité des bâtiments dans le champ des accords de Paris, sur les sujets de l'énergie, bien sûr, du carbone, des réseaux, de la santé, du confort, de l'intelligence artificielle, enfin quantité de thèmes qui sont aujourd'hui de la biodiversité, de l'économie circulaire, de l'économie, de l'obsolescence, de la valeur verte. On a produit sur tous ces sujets et aidé l'industrie à débattre. Nous n'avons aucune prétention à réglementer quoi que ce soit. Nous n'avons aucune prétention à imposer quoi que ce soit. Notre ambition, c'est d'être des agitateurs d'idées et d'aider l'industrie à débattre et à se saisir de ces sujets. On a récemment décidé d'étendre le champ de nos réflexions au territoire, convaincus que nous sommes, qu'on ne peut pas considérer le bâtiment comme un seul objet. Posé là par hasard en ignorant son territoire. Et derrière le mot territoire, nous avons la préoccupation de ses différentes échelles, aussi bien son environnement immédiat que son quartier, sa ville, mais plus généralement les territoires à de plus grandes échelles, ce qu'on appelle aujourd'hui les bassins versants écologiques. On ne peut pas considérer un élément du territoire sans l'ensemble de l'interland qui le dessert. Et parmi les sujets que nous avons rapidement identifiés, celui de la coexistence des enjeux liés à la conjugaison immobilier-mobilité nous est apparu absolument majeur. L'ensemble des deux sujets, immobilier et mobilité, représentent au niveau mondial 75%, j'arrondis les chiffres pour faire simple, trois quarts des consommations d'énergie et trois quarts des émissions de CO2. C'est dire si l'ensemble des deux est un sujet absolument majeur. Or, la pratique, l'observation montre, et nos invités nous aideront à mieux comprendre ce que je dis, montre que ces deux industries, l'industrie immobilière d'une part et l'industrie de la mobilité d'autre part, et leur régulation, ont été très indépendantes les unes des autres, l'une de l'autre au cours de ces dernières décennies, et ont conduit, on le voit bien avec un certain nombre de polémiques qui sont très actuelles, ont conduit à des problèmes politiques, économiques, sociaux, sociétaux et d'environnement absolument majeurs. l'espèce d'expropriation des classes moyennes des centres-villes et la mobilité contrainte a conduit entre autres à des mouvements comme les Gilets jaunes. Enfin, on est sur des sujets qui sont absolument majeurs et qui dépassent très largement le sujet du carbone. Donc, nous avons produit un document qui est un document qui est là pour alimenter le débat. Il n'a pas la prétention d'imposer en quoi que ce soit les idées qui sont proposées. Et nous avons identifié 8 grands thèmes de réflexion. Je ne vais pas les citer aujourd'hui. On organise ces émissions de radio autour du regroupement de ces thèmes. Nous avons parlé du construire et se déplacer moins ou mieux, comme premier grand sujet. Deuxième grand sujet, c'était l'articulation entre le bâti, son sous-sol, entre l'espace public, l'espace privé. Et aujourd'hui, nous abordons une autre séquence qui est liée à un changement de regard, un changement d'échelle du regard. Un changement d'échelle du regard qui pose la question de la gouvernance. On a aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, des choses extrêmement, extrêmement silotées. Et donc, la question générale de la gouvernance, d'une part, de l'urbanisme et des permis de construire qui relèvent des collectivités locales, alors que la mobilité, elle, relève d'autres autorités organisatrices et de la région, avec toutes les polémiques qui en découlent. Elles sont très actuelles en ce moment, on les voit tous les jours dans la presse. Deuxième grand sujet, c'est la question des nouvelles coopérations entre acteurs publics et acteurs privés, d'une part, et entre grandes métropoles, villes moyennes et territoires. Aucune métropole ne peut vivre de façon, aucune grande ville ne peut vivre de façon isolée dans un territoire beaucoup plus large, et ceci appelle à de nouvelles coopérations. Je ne veux surtout pas développer ces thèmes, nos invités sont là pour le faire, mais simplement pour introduire le menu des sujets que
nous
avons
abordés. Merci de l'avoir fait, Christian Clairet. Et effectivement, avec l'augmentation du prix du foncier, avec l'augmentation des prix de l'énergie, on a beau dire on veut tous se loger près de son lieu de travail, on se rend compte que la mobilité, les usages de mobilité deviennent vraiment un maillon crucial dans la manière de vivre dans les villes et à la périphérie des villes, voire hors des villes. Benoît Quignon, vous avez été en charge de territoire délégué général de la ville de Marseille actuellement. Vous avez travaillé également sur le périmètre de la ville de Lyon. On a, surtout après la pandémie, cette envie généralisée, perceptible de beaucoup de proximité. Et en même temps, les prix du foncier ne permettent pas toujours d'être au cœur des villes. Comment, du coup, se réinventent les usages de mobilité? Comment coexister entre un immobilier accessible et une mobilité douce, s'il faut parler de mobilité douce? Je vous poserai la question également.
Merci de me donner la parole. Sur ce point, en particulier, la Covid, la crise sanitaire, elle a révélé, elle a redonné de la valeur à l'hyperproximité. Elle a notamment réhabilité au travers des horaires de sortie autorisés, de la fameuse heure de sortie quotidienne autorisée. Redonner de la valeur à la marche, au vélo, à des choses qui étaient un peu oubliées, désuètes, et au commerce, je dirais, de proximité, puisqu'il ne fallait pas dépasser certaines distances depuis son domicile. Et je trouve que cette révélation, en quelque sorte, d'un plaisir qu'on peut avoir à se retrouver dans son quartier. Alors, certains ont parlé de ville du quart d'heure ou de la demi-heure. C'est quelque chose, finalement, qui a remis sur la table une préoccupation qui était quand même celle des acteurs de la mobilité et des acteurs de la planification des villes. Je pense notamment à mon expérience, évidemment, lyonnaise, qui était plutôt intéressante de ce point de vue-là, c'est-à-dire une idée l'idée qu'il faut effectivement rassembler, ce que disait Christian Clairet tout à l'heure, ce qui est plus facile, je dirais, à Lyon ou dans les métropoles de province qu'à Paris, où l'autorité organisatrice de la mobilité, en fait, c'est la région. Donc, ce n'est pas un regroupement de communes, c'est la région. Donc, c'est une collectivité sui generis qui gère ses préoccupations et qui est assez déconnectée de la réalité de l'urbanisme au quotidien. Ce n'est pas le cas dans les systèmes de gouvernance en région. Et c'est, par exemple, à Lyon... une opportunité qu'on a su saisir à l'époque. Et il y a eu plusieurs générations d'ailleurs d'élus qui se sont inscrits dans cette logique-là. Pas seulement le dernier maire emblématique de la ville, Gérard Collomb, mais ses prédécesseurs également. Et ils avaient su à l'époque, et je pense que leurs successeurs ont à cœur de poursuivre dans cette voie, justement d'articuler ces différentes échelles, d'une part, de l'hyper-proximité, mais aussi au travers de scènes de gouvernance informelle, l'ensemble des grandes villes de Rhône-Alpes. Raymond Barre avait créé un cercle de ses maires et de ses présidents des villes et agglomérations de Rhône-Alpes pour aborder l'ensemble de ces sujets à cette échelle-là de manière informelle, mais aussi d'une manière très formelle et réglementée à l'échelle de la communauté urbaine, en rassemblant d'ailleurs sous la même autorité politique à la fois les préoccupations de mobilité, mais aussi les préoccupations d'urbanisme et de planification. Donc, je dirais, le pire n'est jamais sûr. Et même si, je dirais, la synthèse de ces différentes approches, qui combinaient également la question, d'autres questions plus environnementales, comme par exemple l'eau, l'assainissement, ou d'autres encore sur le plan du développement économique, je dirais, la mise en cohérence de ces différents éléments était parfois corrosive, parfois conflictuelle, mais elle était sous la même autorité politique qui était celle du Conseil de communauté puis du Conseil métropolitain. Donc ça existe. Ça n'a pas toujours été pensé de manière suffisamment fluide, je le note bien entendu bien volontiers, mais ça existe.
Éric Charéron, au sein du groupe Keolis, un leader mondial de la mobilité partagée, présent dans 15 pays, vous réfléchissez, vous pratiquez ces défis-là, ces questions-là, et je retiens notamment que Benoît Quignon parlait de la marche. Moi, je trouve ça intéressant parce que j'avais cru, en voyant très parisienne ce plan vélo et ces files de gens qui faisaient réparer leur vélo devant les dépanneurs, que le vélo était le grand gagnant. Et finalement, en vérité, il semblerait que ce soit la marche la grande gagnante. Vous, ça vous désole en tant qu'opérateur chez Keolis ?
Au contraire. Mais effectivement, je crois que le vélo a un peu éclipsé la marche parce que le vélo, il se voit. Il a été un peu éclipsé des villes et des territoires pendant très longtemps. Il était m'associé à une pratique qui était plutôt populaire. On en voyait beaucoup à l'époque dans un certain nombre d'usines. Et puis progressivement, il s'est développé avec, d'ailleurs à Lyon, l'arrivée du vélo. J'oublierai jamais que c'est la première expérience du vélo en libre-service qui a été mise en place. Puis progressivement, il est monté en puissance. Et puis là, effectivement, avec le Covid, il a pris encore plus de place. Mais la marche, elle a un avantage, c'est qu'elle est beaucoup plus universelle. C'est-à-dire que la marche, je veux dire, les gérontologues, les diabétiques, enfin, tout le monde le dit, c'est par nature ce qui est accessible quasiment à toute la population et qui permet en fait de faire un facteur, un élément de paisibilité des territoires. C'est-à-dire que plus il y a de gens qui marchent, plus la ville devient paisible, plus la ville devient moins bruyante. C'est le rapport du contact, c'est le rapport du rapport aux vitrines. Je rappelle simplement que pendant la crise, les commerces ont quand même souffert, y compris par le développement de la vente en ligne.
Mais rassurez-moi, quand vous parlez des marcheurs, vous ne faites pas de politique. Ça me rappelle certains partis, là.
Non. C'est bien la marche en tant que promenade urbaine, se rendre d'un point à l'autre. Et effectivement, aujourd'hui, il y a à peu près plus... Il y a deux fois plus de personnes qui disent qu'à l'avenir... Ils sont prêts à délaisser leur voiture pour pouvoir marcher pour des distances courtes plutôt que ceux qui déclarent qu'ils vont le faire pour passer au vélo. Voilà. Donc ça, c'est un élément fort. Donc c'est un élément de paisibilité, d'agrément, de sécurisation. Quand vous attendez le transport public, quand vous êtes dans une ville, plus il y a de monde qui marche, plus c'est une ville qui est tranquille et qui est sûre, parce qu'on se sent moins isolé. Et donc c'est un élément qui nous réjouit, d'autant plus que la combinaison marche et transport public classique est génial. C'est-à-dire qu'on peut mixer les expériences. Je peux décider, quand j'arrive à la gare Montparnasse, de prendre la rue de Rennes à pied pendant 2 km, et ensuite, à Odéon, de prendre le métro pour venir ici, à Réaumur-Sébastopol.
J'apprécie votre approche très positive, et en même temps, quand on parle d'attente, on a tous vécu ces moments d'attente un peu trop longs, où finalement, pour nous, le transport, dans ce monde de l'immédiateté, on a envie que le métro soit là tout de suite quand on en a besoin, et qu'il y en ait un qui arrive un par minute, et on ne veut plus attendre dans ce monde-là. Alors, la gestion de l'attente, c'est chez Keolis, vous devez savoir ce que c'est.
Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est l'intérêt, notamment dans les bus et dans les tramways, d'avoir le temps d'attente qui est indiqué. Parce que quand vous y indiquez 5 minutes...
Il y a un progrès, c'est vrai.
soit vous décidez de rester parce que les conditions d'agrément de l'endroit vous permettent
Exactement.
De rester, soit vous dites, bah, vous allez à l'arrêt. Si vous le pouvez, si vous êtes en forme, s'il ne pleut pas. Si vous avez... Mais vous pouvez très bien marcher jusqu'à l'arrêt suivant.
C'est vrai, donc... la valeur de l'information importante là-dessus, voilà. sur le transport, exactement.
Donc ça, c'est un élément important. Mais comme le disait Benoît Quignon, la crise du Covid a été un révélateur, un accélérateur de certaines tendances. Alors certaines préexistaient avant, pas toutes, bien sûr. Mais sur la mobilité, comme sur la localisation du choix des territoires dans lesquels on a envie de vivre. Mais en tout cas, le désir de proximité, donc Benoît Quignon en a cité un certain nombre, il y en a un qui m'a beaucoup frappé, qui nous frappe beaucoup, c'est le désir aussi de proximité lié à la nature. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si c'était une redécouverte du patrimoine naturel de proximité des grandes agglomérations. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que cet élément patrimonial qu'on a un peu sous-estimé, de la nature aux portes de la ville, est un élément qui peut être un élément de choix, de qualification d'une agglomération. On a fait une enquête à Ipsos juste avant le confinement, où on montrait que la beauté des lieux, la beauté des villes et la beauté des paysages autour est un élément déterminant pour le choix d'une localisation. Après, il y a bien sûr le logement, hein, les conditions de logement, mais c'est un élément très très fort. Et ça, c'est revenu sur le dessus de la pile, je dirais en quelque sorte, avec le confinement.
Je suis sûre, Benoît Quignon, que tout ça, ça vous inspire, mais j'avais envie d'aborder avec vous ce nouvel équilibre entre métropole, ville moyenne. La crise a laissé comme trace le rejet de la ville dense, hein, avec son impact sur les usages de mobilité. Il y a un intérêt renouvelé pour les villes moyennes. Quelles implications voyez-vous ? C'est assez large, non ?
Oui, alors c'est un phénomène qui n'est pas nouveau. Moi, j'avais eu l'occasion de l'étudier il y a déjà une quinzaine d'années à Lyon. On avait d'ailleurs fait travailler à l'époque Laurent Davzy, qui est un grand spécialiste de ces questions et qui nous avait révélé un phénomène qui nous avait beaucoup surpris, c'est que nous pensions, avec, je dirais, un peu de... On était un peu gênés pour affirmer cela, mais on pensait être... principal facteur d'attraction économique et de développement économique de la région Rhône-Alpes. Et en fait, on s'était aperçu avec Laurent Davzy, en compulsant les données des administrations fiscales, de l'INSEE, etc., que finalement, la croissance, à la fois de la richesse, mais aussi de la démographie, elle était de plus en plus forte au fur et à mesure qu'on s'éloignait du centre de la ville de Lyon. C'était un peu paradoxal. Et on avait été amené à l'époque, d'ailleurs, à en tirer une conclusion, c'est-à-dire de proposer, je dirais, une alliance. Alors, le terme a été repris, d'ailleurs, dans le droit, hein, dans la législation, une alliance de territoire. Alors, à l'époque, on n'appelait pas ça tout à fait alliance de territoire. En tout cas, une coopération avec des territoires plus ou moins éloignés de nous, au travers notamment d'exercices menés en parallèle, de planification au travers des outils qui s'appellent les SCOT, les schémas de cohérence et d'organisation territoriale, qui justement essayaient de prendre en compte tous les éléments de la vie des habitants de chacun de ces territoires, en commençant évidemment par Lyon, et en rédigeant, ça avait été fort apprécié à l'époque, un chapitre commun de chacun de ces outils de planification. Et dans les sujets communs qui avaient été, je dirais, travaillés, il y avait évidemment la question. Alors, deux questions d'ailleurs assez amusantes. Il y avait la question, bien sûr, de la mobilité. Il y avait aussi la question de la logistique. Hein, la logistique en 15 ans avant ou 10 ans avant Amazon, parce que c'était un des sujets principaux d'irritation ou d'irritant.
Heureusement, il n'y a pas qu'Amazon qui fait de la logistique, voilà. Mais c'est vrai qu'il a
Absolument.
Pris une place
prépondérante. Voilà. Alors à l'époque, il y avait d'autres logisticiens, ils sont toujours là d'ailleurs, et je pense notamment au groupe La Poste, mais voilà, qui résident. Voilà. Donc on avait vraiment cette question-là en tête, ce qui nous a amené d'ailleurs à l'époque à imaginer, et cette fois-ci c'était avec la région, des accords pour développer un réseau métropolitain de RER, on avait appelé ça pompeusement RER à la lyonnaise. Modèle là aussi qui a été repris dans pas mal d'endroits en France. Je sais que par exemple à Bordeaux, il y a cette idée. Il y a cette idée également en cours d'élaboration du côté de Marseille, avec des modalités, si vous voulez, d'organisation et de structuration de la mobilité un peu différentes. Et puis aussi la prise en compte du développement, je dirais, de polarité de deuxième ou de troisième rang à l'échelle d'un territoire plus vaste qu'on a appelé l'aire métropolitaine lyonnaise, qui a une population d'à peu près 2,5 millions d'habitants et qui s'étend à une centaine jusqu'à 100-150 km autour de Lyon, avec des coopérations soit structurelles, soit tout à fait ponctuelles sur différents sujets. Donc c'est des choses qui, je dirais, qui sont tout à fait possibles aujourd'hui. Il y a tous les instruments possibles pour mener ce type de coopération. Rien n'empêche les territoires de le faire. Ce n'est pas une question législative ou réglementaire. Par contre, c'est une capacité de prendre de la hauteur, d'avoir une vision un peu plus stratégique. Et ce n'est pas toujours facile. Moi, j'ai en tête aujourd'hui mon expérience marseillaise, puisque je travaille aux côtés du maire pour réfléchir aux relations futures entre la ville de Marseille et la métropole ex-Marseille-Provence. Donc, en redistribuant en quelque sorte les cartes, en regardant ce qui relève de la gestion de proximité, de ce qui relève de la gestion stratégique ou la réflexion stratégique, on voit bien la difficulté qu'il y a à penser un avenir ensemble. C'est pas inné. Et par exemple, à Marseille, on voit bien que la rivalité entre les différents territoires, et en particulier les villes d'Aix d'une part et d'autre part de Marseille, font que ce dialogue est plus compliqué. Et donc, du coup, la question de l'intégration des préoccupations de mobilité et des préoccupations urbaines ou de politique de la ville est particulièrement difficile sur ce territoire, CQFD d'une certaine manière.
Éric Charéon, est-ce que vous êtes d'avis que la ville dense n'existera pas sans sa périphérie qui lui sert d'interland et qu'on va de plus en plus travailler cette solidarité entre les territoires ?
Alors j'en suis convaincu parce que c'est une nécessité absolue qui existe depuis longtemps. Donc Benoît Quignon parlait de la dynamique démographique qui était plus forte quand on s'éloignait du centre-ville. Je vais vous donner un exemple très simple sur l'aire urbaine de Bordeaux. Donc sur la période de 50 ans, de 1968 à 2018, elle a progressé de 500 000 habitants. Sur cette période, 500 000 habitants en plus. Sur cette période de 50 ans, la ville de Bordeaux n'a pas retrouvé aujourd'hui son niveau de population de 1968. Ce n'est pas la seule. Ce n'est pas la seule des villes-centres. Malgré la construction de plusieurs dizaines de milliers de logements. Ensuite, sur les 500 000 habitants supplémentaires, 250 000 ont été intégrés dans les limites de la communauté urbaine de Bordeaux Métropole. Donc plus de la moitié en deuxième couronne et une petite moitié dans la première couronne des communes qui sont proches de Bordeaux. Et la moitié de la population a été prise par ce qu'on appelle les communes périurbaines au-delà des limites de la métropole. Donc dans des communes qui sont de taille très diverse, où les flux sont d'ailleurs difficiles à organiser, l'organisation de la mobilité est difficile, parce que ça se retrouve réparti dans des communes de taille très diverse, y compris la moitié des communes ont souvent moins de 1000 habitants. Alors ce phénomène-là, ce n'est pas le seul à Bordeaux. Je vous ai dit 50% de la population en dehors des limites de la métropole. Mais c'est le même cas à Dijon, c'est le même cas à Strasbourg, et c'était encore plus, effectivement, dans le cadre de la métropole lyonnaise. Deuxième phénomène, c'est que ce que je vous ai dit sur Bordeaux, où la ville ne progressait plus, prenons une ville comme Rennes, où il y avait des...
J'y étais la semaine dernière, très belle
Rennes
ville.
Avait de la superficie par rapport à Bordeaux, qui est une ville qui, historiquement, où c'est plus difficile de beaucoup construire. Rennes a énormément construit. Rennes a construit, sur cette période-là de 50 ans, 58 000 résidences principales supplémentaires. Mais il n'y a que 36 000 habitants de plus. C'est-à-dire que ce phénomène de décohabitation, c'est-à-dire que globalement, le fait que la taille des ménages s'est rétrécie, la mise en couple se fait de plus en plus tard, le nombre d'enfants a eu tendance à diminuer, et le phénomène de la longévité, c'est-à-dire le fait qu'il y a de plus en plus dans la société de personnes âgées, fait que dans les villes-centres, il faut construire énormément de logements pour arriver à maintenir sa population stable. Vous vous rendez compte, 58 000 logements en plus, c'est-à-dire qu'ils ont doublé. Il y avait 56 000 logements dans la ville.
Et pas du tout de trottinettes, j'ai cherché. Il n'y en avait pas, et très peu de vélos, ça m'a étonné.
Ah si, il y a des vélos. Il y a des vélos.
Les tramways, formidable.
Métro à Rennes. Métro à Rennes.
Ah oui, je fais un bilan parce que je vous invite à regarder cette autre émission, Les Clés de la Ville, une fois par mois. Radio Immo se déplace dans chaque ville de France, les grandes villes, les plus petites également, et fait un point sur ces éléments territoire, mobilité, usage.
Et juste peut-être un point pour terminer là-dessus, parce que l'INSEE a redéfini le cadrage de ce qu'on appelle des périmètres d'influence des villes ou des aires d'attraction des villes. Avant, on parlait d'aires urbaines. Et à l'été 2020, à peu près, l'été a changé ce concept-là pour parler de l'aire d'attraction des villes. Mais comme toujours, on se base uniquement sur les liens domicile-travail pour définir ce que c'est l'aire d'attraction d'une ville. Donc en gros, si je prends une ville comme Dijon,
très belle ville aussi. Hein,
très belle ville, hein, très, très beau magnifique, patrimoine architectural, en pleine...
Duc de Bourgogne.
Voilà, ouais. en pleine rénovation. Donc si vous voulez, ce qui est avec plein de projets, etc. Donc, ce qui est assez clair, c'est que, si vous voulez, sur cette aire d'attraction en dehors de la métropole, des villes, vous avez à peu près, selon l'INSEE, autour de 150 000 habitants de plus. Mais en fait, si on prend l'aire d'influence de la métropole, c'est-à-dire que le nombre de personnes qui sont plus près du CHU, de l'IKEA, d'un campus universitaire, de spécialisation dès l'enseignement secondaire, qui sont plus près d'un certain nombre d'équipements culturels, c'est pas 150 000 personnes, c'est 900 000 personnes qui, en fait, sont plus proches de Dijon que de n'importe quelle autre ville qui propose un type de service équivalent. Et donc là, il y a une vraie articulation à jouer qui dépasse largement les seules limites qui sont basées sur le domicile de travail.
C'est intéressant. Je vais donner la parole à Benoît Quignon dans un instant et je remarque en passant l'importance qu'a pris IKEA, que vous citez, comme un établissement public. Je vous écoute, Benoît Quignon.
Oui, merci. On y est tous passés, hein. Merci. Oui, merci. Simplement, en complément du propos d'Éric Chéron, que je partage complètement, il y a aussi une dimension à laquelle on oublie parfois de penser, c'est que là, on parle de population qui décide à un moment de partir à la périphérie parce que, etc. En fait, le mouvement n'est pas si simple que cela. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements d'aller et de retour tout au long de la vie. Et ce phénomène-là, il est de plus en plus important. C'est-à-dire que la mobilité, finalement, pour des raisons professionnelles, pour des raisons de commodité, pour des raisons financières, pour des raisons familiales, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Et on peut être parfaitement à l'aise à un moment de sa vie en plein centre-ville. Par exemple, on est étudiant, on se met en couple, on commence à faire des projets. Ensuite, on va avoir des enfants, on va décider d'aller un petit peu plus loin. Et puis ensuite, peut-être encore un peu plus loin. Puis après, on se dit, les enfants vont rentrer à l'université ou au lycée. Il faut peut-être qu'on se rapproche d'un centre urbain. On peut être tenté aussi de revenir en centre-ville quand on prend sa retraite. Bref, il y a des phénomènes extrêmement, qui font que le parcours d'une personne au cours de sa vie est beaucoup plus animé, en quelque sorte, que ce qui se passait il y a quelques dizaines d'années. Et c'est d'ailleurs assez en lien avec l'offre de mobilité qui s'est développée, finalement, puisque l'offre de mobilité nous rapproche tous, à la fois à l'intérieur du territoire national, voire européen, mais aussi à l'échelle d'une région ou d'une métropole. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte et éviter d'avoir, des jugements définitifs, comme par exemple on peut être aujourd'hui tenté de les avoir en constatant que 80% des cadres souhaitent quitter, l'Île-de-France, peut-être à un moment T, peut-être aussi qu'ils diront dans 5 ans ou dans 10 ans, mais finalement, pour telle ou telle raison, on préfère revenir en région parisienne. Marseille, par exemple, la ville de Marseille, on est très consciente de cela. C'est-à-dire, c'est comment faire en sorte que ceux qui viennent en ce moment, ils y restent. Et donc, ça veut dire une offre de services, par exemple, différente, des perspectives différentes en matière d'enseignement supérieur, en matière d'attractivité, en matière d'offre de services que trouvent ces néo-marseillais en venant d'une métropole, Paris, dont ils ont peut-être un petit peu aussi occulté les charmes et dont il ne faudrait pas qu'ils soient trop rapidement nostalgiques.
Attirer les habitants, c'est bien, les garder, c'est un autre défi. Christian Cléret, je vous vois réagir. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ?
Oui, ben, je crois que nos amis nous rendent un peu optimistes. Enfin, je reprends la formule de Benoît en disant « c'est possible ». À condition qu'on le veuille et qu'on choisisse le bon regard, le bon raisonnement et la bonne hauteur de vue sur ces sujets. Sur les phénomènes de métropolisation qui ont été évoqués, je ne rajoute rien, je partage totalement ce point de vue. Je voudrais simplement ajouter sur les questions de mobilité que la question de la mobilité contrainte, me paraît tout à fait fondamentale. Ceci pour nous éviter d'avoir un regard trop parisien ou trop hypercentré sur les villes. On auditionnait dans notre groupe Thierry Paco ces derniers jours, qui nous rappelait que la marche, par exemple, c'est le trottoir, nécessite un trottoir. Or, il nous dit dans les métropoles, Éric Chéron l'a rappelé tout à l'heure, dans la zone périurbaine, il y a quantité de villages de moins de 1000 habitants. Et la connexion avec le centre-bourg se fait souvent par des chemins qui n'ont pas de trottoir. Moyennant quoi, le gamin ne peut pas aller à pied chercher la baguette chez le boulanger. Il y a une mobilité contrainte. Les parents doivent y aller en voiture. Donc cette question de la mobilité contrainte de la grande périphérie. Et lorsqu'Emmanuel Wargon, il y a quelques semaines, pose la question des zones pavillonnaires, avec la polémique qui en est résultée, je ne juge pas du tout sur le fond, je ne veux pas tenir un propos politique ici, mais on a tous vu les réactions. Objectivement, il y a un problème. Il y a un problème qu'il faut traiter. On ne peut pas considérer qu'il soit aujourd'hui intégralement traité. Donc, je dis simplement ça pour qu'on se garde d'avoir une vision hyper-urbaine. Je pense qu'en centre-ville, les questions de mobilité et d'immobilier sont à peu près réglées. On a une offre de mobilité qui est très, 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 très conséquente. C'est dans la grande périphérie que les questions majeures se posent et où les mobilités contraintes posent vraiment problème.
J'aimerais qu'on parle d'échelle. Il y a une sociologue, Sonia Lavadino, que vous citez dans votre groupe de travail, qui distingue 4 échelles spatiales successives, du bâtiment à la pièce urbaine, la première minute, les 100 premiers mètres en dehors du pas de la porte, et puis de la pièce urbaine au quartier, les 5 minutes suivantes, c'est-à-dire 500 mètres autour du bâti. Ensuite, on passe à l'étape du quartier à la bande urbaine, ce sont les 5 à 10 minutes suivantes. Enfin, de la bande urbaine à l'agglomération, c'est l'échelle du quart d'heure à la demi-heure. Vous l'évoquiez en préambule, Benoît Quignon. Et Éric Charréron, comment on gère ces changements d'échelle? Et puis, est-ce qu'au fur et à mesure des années, l'échelle la plus importante également n'est plus la même? Quelle est votre analyse?
Alors, l'échelle, en fait, la majorité des citoyens conjuguent en fait plusieurs types d'échelles. Vous parliez, Alain Clairet parlait tout à l'heure des mobilités contraintes. On parle beaucoup effectivement de ce qui se passe dans le périurbain, mais il y a aussi ce qui se passe dans les petites villes, dans les bourgs, etc., où vivent, n'oublions pas, pas loin de, dans les villes moyennes, toutes petites villes, bourgs et villages, pas loin de 25% de la population française, d'accord. Et là-dedans, la mobilité contrainte, c'est pas nécessairement celle qui est liée pour aller au travail. C'est les 30% de citoyens qui font une démarche médicale dans la semaine. Comment je trouve, alors, le médecin généraliste qui accepte une nouvelle patientèle, comment j'ai trouvé effectivement l'ophtalmo quand j'habite Saint-Flour alors que le premier il est à Mende ou à Issoire ou à Aurillac, comment je fais? Et là, c'est une vraie mobilité contrainte parce que de temps en temps, il y a les déplacements à l'intérieur de ma petite ville, de ma commune. Et puis, il y a dès que je sors des frontières, parce que j'ai un certain nombre de besoins pour aller à la fac, si je suis lycéen et que je ne fais pas partie des 45% des personnes qui préparent, des jeunes qui préparent le bac généraliste, on va dire les sections généralistes, je n'ai pas trouvé toutes les sections technologiques, toutes les sections professionnelles, en général, dans mon univers, et je suis contraint à aller quelquefois très loin. Donc, effectivement, on conjugue tout ça, et chacun d'entre nous, à un moment, pas seulement de sa vie, mais même au cours de la semaine, au cours du mois, va conjuguer le quartier, la ville, l'agglomération et un périmètre beaucoup plus étendu, parce qu'on oublie toujours une mobilité alors qu'elle n'est pas nécessairement contrainte. Quoique, la plus grande des mobilités, enfin une des mobilités importantes, notamment entre les villes, c'est la mobilité affinitaire. C'est-à-dire que je vais voir, et là le Covid a renforcé les liens de la nécessité de prendre soin des gens que l'on connaît. Donc c'est la capacité que l'on a à avoir aussi une résidence. Et on sait que dans le choix résidentiel, c'est important, quelquefois, de se rapprocher de parents âgés. Parce que quand on part à la retraite, quelquefois, on a encore ces parents qui peuvent être âgés, ce qui n'était pas le cas, ou très peu le cas, il y a encore 30 ans. Donc ces phénomènes-là, en tout cas, d'identité, de proximité avec les gens, sont importants. Et si vous n'êtes pas proche, vous avez besoin de vous déplacer pour les voir. Et ça, c'est des phénomènes très importants pour aller d'une ville à l'autre. Donc on conjugue plein de types de déplacements au cours d'un mois sur ces différentes échelles qui dépassent largement l'agglomération.
Il est vrai que vous parlez de malades. On est encore dans ce contexte sanitaire, hélas. Mmh. Et ça change la donne, tu vois, effectivement. Doctolib ne règle pas tous les problèmes. Il faut parfois se rendre voir son spécialiste. Et ça modifie la vie dans la ville. Est-ce que vous voulez réagir, Benoît Quignon, sur ce qu'on a dit?
Oui, parce que ça renvoie à une notion qui est très pratiquée à Dijon, d'ailleurs, dont on a beaucoup parlé tout à l'heure, qui est celui de la Smart City ou du territoire intelligent. C'est-à-dire que, à la fois d'ailleurs dans le domaine de la mobilité, Keolis en sait quelque chose qui a été pionnier dans ce domaine, avec ce qu'on appelle le MAS, d'ailleurs le Mobility as a Service, ou encore dans les bâtiments, à réalité augmentée d'une certaine manière, c'est-à-dire qui intègrent des fonctionnalités qui n'existaient pas jusqu'à présent, on voit qu'il y a une forme de rapprochement finalement entre l'immobilier dont on parlait au début de cette émission et puis la mobilité, parce que ces différents éléments finalement s'intègrent, ces différentes fonctions intègrent des dimensions, je pense notamment numériques, qui permettent de résoudre, d'apporter des solutions à la question de la mobilité. Un peu différente, innovante ou pas, mais par exemple, pour rebondir sur l'exemple d'Éric Chéréron, on sait aujourd'hui que sur Doctolib, lorsque vous souhaitez avoir, d'abord c'est un outil qui n'existait pas il y a encore quelques années, vous prenez de manière beaucoup plus facile rendez-vous chez le médecin, puisqu'on vous propose des créneaux, vous n'êtes pas obligé de négocier avec la secrétaire médicale, et on vous propose d'ailleurs d'emblée une visio. C'est-à-dire qu'il n'est peut-être pas forcément utile d'avoir à se déplacer. On peut régler un renouvellement d'ordonnance, on peut faire un point sur une situation, demander un avis sur une analyse médicale. Et ça, c'est des choses qui changent aussi beaucoup. C'est vrai aussi dans l'offre de services, puisque de plus en plus, on a des cartes, je dirais, des cartes combinées. C'est ce qu'on avait essayé de mettre en place à Lyon avec la carte des TCL, l'opérateur de transport, Keolis Lyon. Et puis, par exemple, les vélos ou encore d'autres services. Donc on voit bien, je dirais, ces liens qui se créent grâce en particulier au numérique. Et je voudrais revenir sur cette expérience de Vélov qui était finalement... alors effectivement, Eric a eu raison de le rappeler, c'était à Lyon que c'était imaginé la première fois. Et j'ai fait la bêtise, d'ailleurs, je l'avoue devant tout le monde, de donner gratos le cahier des charges qu'on avait fait pour Lyon à la ville de Paris qui l'a reproduit et évidemment qui a dit « c'est nous les premiers avec Vélib ». Je referme la parenthèse, c'était un scoop. Et donc, Vélov, ce que je peux aussi donner comme scoop, le deuxième scoop, c'est qu'on ne l'avait pas du tout conçu comme ça. C'est-à-dire qu'au départ, nous, c'était tourné assez sur les loisirs. Et en fait, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire que c'était pour tous les usages, sauf les loisirs. Alors, j'exagère, parce que les loisirs aussi étaient utiles. Et puis, c'était aussi, avec les courbes, notamment, et les temps de fréquentation de ce service, qui a eu un succès extraordinaire, enfin, qui nous a tous dépassés, y compris l'opérateur Jean-Claude Decaux, qui a été notre partenaire dans cette affaire, qui était totalement dépassé. On avait prévu 3-4 utilisations de vélo par jour. On est allé jusqu'à 18-20 utilisations de vélo par jour. C'est le premier service de transport collectif individuel, comme on l'avait appelé à une époque. C'était assez extraordinaire. On voyait donc des usages par des gens plus âgés que ce qu'on avait imaginé, pour des usages domicile-travail, et puis aussi en complément du réseau de transport urbain de la ville, et c'est ce qui se passe aussi à Paris et dans toutes les villes où ce type de service est développé en libre-service, eh bien à la fermeture, ou au contraire juste avant l'ouverture, des réseaux de transport. Et donc avec une sorte de continuité qui a recréé finalement cette impression de proximité, de sécurité, de fluidité, de capacité d'échange supplémentaire, qui a bouleversé en quelque sorte la perception que pouvaient avoir les habitants des villes de leur expérience en quelque sorte urbaine. Et je pense que ça, on parle souvent dans le domaine du marketing des produits ou des services de la notion d'expérience, je pense que ça a totalement renouvelé l'expérience de la ville. Et ça, c'est vrai dans toutes les métropoles aujourd'hui européennes. Ça a été véritablement un changement, alors qu'il n'est pas né à Lyon, évidemment, parce qu'il y avait d'autres expériences moins abouties ailleurs, qu'on était allé regarder du côté de Vienne et de Munich en particulier. Mais je pense que ça a été un tournant par cette facilité, cette aisance, cette fluidité, l'absence d'obligation, finalement, de réserver quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on a tout de suite quelque chose de disponible. Et ça... vous parliez tout à l'heure de l'impatience que pouvaient avoir les usagers des transports publics aujourd'hui. Bah, c'était une manière de répondre à ça. Parce que là, le vélo, vous l'avez tout de suite. Voilà, vous n'avez pas besoin d'attendre.
J'aurais voulu aborder la thématique des rapports entre le public et le privé. J'ai l'impression, Benoît Quignon, je vous donne la parole dans un instant, Éric Chéréron, vous êtes bien placé pour en parler du fait des fonctions que vous occupez, que vous aviez occupées. Vous êtes le promoteur d'un nouveau pacte entre public et privé ou...
Je ne sais pas si c'est un nouveau pacte, parce qu'en fait, ces expériences de coopération, on les connaît depuis la fin du 19e siècle, en France notamment, avec le modèle des délégations de services publics, qui ont, par rapport au marché public très classique, une caractéristique. C'est-à-dire que ça permet, c'est même intrinsèque, consubstantiel, pardon, à la mise en place de délégations de services publics. Vous êtes beaucoup plus sur quelque chose qui est performantiel, sur la recherche d'un résultat à atteindre et sur la négociation, plutôt que sur je suis conforme, il y a un cahier des charges, je suis conforme, je ne suis pas conforme, je réponds à un certain nombre de critères qui sont appréciés, et puis il y a le prix, et puis à la fin, on se retrouve avec le prix le plus bas. Hein. Ça, c'est l'offre classique. Malheureusement, on arrive avec parfois de la non-qualité, parce qu'on ne sait pas très bien prendre en compte la qualité, on a peur d'être subjectif, et donc on se protège finalement en prenant le moins cher. Bon. La délégation de services publics, ça n'empêche pas d'aller chercher la performance économique, bien au contraire, mais c'est un dialogue finalement entre adultes et qui va aller finalement chercher la satisfaction d'un service complexe en responsabilisant d'ailleurs le délégataire sur la recherche et l'optimisation de la relation avec l'usager ou le client du service public et en particulier pour développer la recette puisque le délégataire il est responsable à la fois sur la maîtrise des coûts, mais aussi sur l'optimisation et le développement de la recette. Et dans le cas d'espèces de Velov, on avait un modèle encore différent qui était à l'époque l'appel d'offres performantiel et où en fait au départ on ne savait pas ce qu'on voulait. C'est-à-dire qu'on savait qu'on voulait une solution autour du vélo. Alors déjà dire une solution, c'était un grand pas parce que le maire avait passé une commande qui était je veux des vélos gratuits pour les gens, hein, ou en tout cas pas cher pour les gens. Bon. D'accord, ça c'était la commande et on a transformé, on a reformulé la commande pour dire en fait ce que les gens ont besoin, c'est, en fait c'est d'un service, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas avoir à réparer le vélo, ils veulent pouvoir l'avoir à disposition, ils veulent pouvoir le rendre sans difficulté et ils ne veulent pas être emmerdés par les questions de vol de vélo. Voilà, c'était ça en fait et c'est cette analyse-là qui nous a conduit à cette consultation et à ce résultat. Le résultat il était excellent parce qu'effectivement on avait plutôt pas trop mal perçu les besoins des gens et on avait su, et ça c'est pas nous, c'est le prestataire, enfin le partenaire en l'occurrence Jean-Claude Decoux, il y en avait d'autres hein, d'ailleurs, qui a su apporter le service qui correspondait, c'est-à-dire que le service, il apportait pas le vélo, il apportait un service. C'est tout à fait différent.
Si je peux réagir sur ce point pour bien préciser ce que nous mettons en lumière au sein de notre groupe de travail, c'est que Benoît a tout à fait raison de rappeler que les DSP existent, non pas depuis la nuit des temps, mais enfin depuis très très longtemps. Souvenons-nous que dans un très très lointain passé qui remonte à plusieurs siècles, les prisons faisaient l'objet de délégations de services publics auprès d'opérateurs privés. Donc on n'a pas inventé la poudre au XXe siècle sur ce sujet. Ce que nous mettons en lumière dans le groupe, c'est deux aspects complémentaires. Le premier, c'est la question de la valeur urbaine et de la valeur patrimoniale du foncier. C'est-à-dire que lorsqu'on crée un réseau de transport, immédiatement, le foncier prend de la valeur. Or, je parlais de silotage de l'industrie immobilière et de l'industrie de la mobilité tout à l'heure. La charge de la mobilité des moyens de transport appartient à la collectivité et le foncier, lui, prend une valeur énorme. Or, les deux s'ignorent. Et il y a la matière à réflexion, nous semble-t-il, sur des sujets importants. Le deuxième point, c'est que si on veut, je reprends la formule de l'ONU, improve... j'en oublie les termes, éviter, améliorer ou déplacer, oui, improve, shift or avoid. Aujourd'hui, on pense très peu à éviter. Hein, on privilégie beaucoup les deux premiers termes. Et ça pose la question de la modification des usages des bâtiments, de l'hybridation et donc de la réglementation qui s'impose à eux pour éviter la mobilité précisément en permettant beaucoup plus de souplesse. Or aujourd'hui, en dehors de l'expérimentation, la réglementation est très très rigide sur la question de l'usage des bâtiments. On a avec le village olympique les premiers exemples de possibilités de transformation de bâtiments. On a là, me semble-t-il, un champ de réflexion tout à fait important pour avoir des mobilités évitées et pouvoir utiliser des bâtiments de façon très très différente dans le temps.
Éric Chareron, puis-je vous demander de réagir ? Ce sera le mot de la fin.
Ouais, en tout cas, pour la délégation de services publics, ce que je peux dire dans le partenariat, c'est que c'est le meilleur du public et le meilleur du privé qui s'allient, comme le disait Benoît, pour arriver effectivement à proposer le meilleur service aux citoyens, aux citoyennes de leur diversité, dans un dialogue effectivement fructueux d'adulte à adulte, et ça, et de confiance, et ça c'est vraiment important. Ensuite, il ne faut pas oublier le partenariat public-public quelquefois, c'est-à-dire que l'Île-de-France, Île-de-France Mobilité est un peu un cas particulier pour la gestion de la mobilité où il gère à la fois les bus, le métro, donc on va dire tous les bus Île-de-France, les métros, les tramways, mais aussi le Transilien, c'est-à-dire les chemins de fer. Et le chemin de fer échappe à la compétence des autres agglomérations de France puisque c'est la région. Et de temps en temps, pour ne pas le cacher, je ne dirai rien, mais de temps en temps, on sent bien qu'il y a des tensions entre d'une part la vision de la région et d'autre part la vision des métropoles pour faire aboutir ce que vous appeliez tout à l'heure d'ailleurs les RER métropolitains. C'est-à-dire que de temps en temps, il y a des petites tensions, donc là aussi. Mais il peut y avoir aussi ça, quelquefois, entre opérateurs différents qui peuvent même être quelquefois du même groupe ou proche, mais parce que c'est des questions de territoire. Donc ça, c'est aussi une culture où il faut développer des savoir-faire ensemble. Par rapport à ce que vous disiez, d'ailleurs, sur la valeur urbaine et patrimoniale du foncier qui prend de la valeur lorsqu'il y a des infrastructures du transport, ce qui nous fait dire, d'ailleurs, que tout ce qui est un peu ancré, c'est-à-dire que les bus à haut niveau de service qui ne sont pas équivalents au tramway, mais qui, quelque part, figent un peu un itinéraire, ce qui est plus lisible, plus structurel dans le temps, ben ça permet effectivement de donner de la visibilité aux acteurs financiers, aux acteurs immobiliers, mais aussi aux ménages, de se dire, en aménageant dans ce quartier-là, je suis sûr que dans 5 ans, il n'y a pas quelqu'un qui va prendre la décision de détourner ma ligne de bus, alors que j'en avais une grosse ligne jusqu'à présent et qui va passer à 1 km de là. Donc il y a quelque part une inscription dans le temps de ces infrastructures qui permettent à la fois aux acteurs immobiliers et aux ménages de choisir leur localisation. Et pour revenir sur les petites villes, sur la mobilité, on a fait une étude sur les villes moyennes pour effectivement capter comment les habitants des villes moyennes. Ils ont été tirés sur la base des jurys populaires, en quelque sorte. Ils ont débattu pendant 2 soirs sur 3 villes sur comment ils pouvaient attirer des gens qui viennent des grandes villes. Et à la fin, le débat portait sur mais c'est quoi ? Quels vont être les freins ? Vous parliez tout à l'heure du côté déceptif que les gens pourraient trouver dans votre ville. Il disait il y a 3 types de faiblesses. La première, c'est l'offre culturelle. On est très fiers de nos festivals. Il y a le Pruneau Choix à Agen, il y a le festival de l'histoire à Blois, etc. Donc ça, on est très fiers. Mais toute l'année, comment on va faire pour attirer des gens qui viennent de Bordeaux, de Paris, etc. Le deuxième frein, c'est de se dire, mais c'est l'offre médicale que j'évoquais tout à l'heure. On n'a pas de CHU, c'est difficile, etc. Et la troisième offre, c'est la mobilité. En disant, mais attendez, les parents, ils n'ont pas l'habitude de faire le taxi pour les enfants. Les adultes, il y en a beaucoup dans les grandes villes qui n'ont pas de voiture. Dans le centre de Lyon, dans le centre de Nantes, dans le centre d'Angers, il y a 50% des ménages quasiment qui n'ont pas de voiture. S'ils viennent dans nos villes, comment ils vont faire ? Donc là, on voit bien effectivement que la localisation dans une ville moyenne est aussi liée à l'offre d'une mobilité qui peut en tout cas encourager un certain nombre de mouvements. Et en même temps, de l'autre côté, dans les grandes villes, vous parliez tout à l'heure, moi j'ai parlé de Michel Lussault, qui disait qu'en fait, dans les grandes villes, il y a une déception par rapport au transport public, même si vous le disiez tout à l'heure, il est plutôt bien organisé, hein, vous le disiez aussi, il y en a beaucoup, mais globalement, par rapport à la charge, par rapport au risque d'insécurité, par rapport au fait qu'on est trop nombreux dedans et qu'il y a des déceptions pour aller de périphérie en périphérie, ça, ce sont des éléments d'insatisfaction qui se sont aggravés avec la crise du Covid, notamment par rapport au phénomène d'entassement, et sur lequel il va falloir travailler pour que le transport partagé, vertueux, soit demain un critère d'attractivité de ces villes et ne fasse pas fuir des gens qui éventuellement en ont l'envie aujourd'hui, mais qui, si on traitait bien leurs problèmes, auraient envie de bénéficier, comme vous le disiez, des effets positifs d'une grande métropole.
Merci beaucoup. Benoît Quignon, alors si c'est un mot de conclusion, c'est 1 minute, hein, je le précise pour M. Charréron, ça n'a pas été clair, on va dire ça comme ça.
Il y a un vrai enjeu pour l'industrie immobilière, telle que la rappelait ou la décrivait Christian tout à l'heure, d'intégrer la dimension de mobilité. J'y ai fait allusion tout à l'heure. La réalité augmentée en quelque sorte, le numérique, ça permet, en donnant accès par exemple par la fibre, ce qui est déjà le cas dans 70% des cas en France, mais à des services qui permettent d'éviter certaines mobilités, qui permettent d'accroître le niveau de satisfaction des habitants, de leurs habitants, par rapport à une offre culturelle, une offre médicale. On y faisait allusion tout à l'heure. Mais je pense aussi que l'industrie immobilière, elle doit intégrer à la fois d'ailleurs sur le neuf, mais aussi sur l'existant, la question des usages et des usages qui soit permettent en permettant, par exemple, le développement d'activités, pas forcément au niveau de l'appartement, mais au niveau de l'immeuble ou de la cage d'escalier, le développement, par exemple, de structures de coworking en bas de l'immeuble. J'y reviendrai dans un instant. Mais aussi de services partagés, de voitures en autopartage. Moi, j'ai eu la chance de participer à une expérience montée par le ministre de la Recherche, le ministère de la Recherche le NEDO, du Japon, une expérience assez étonnante à la Confluence, où vous avez un logement et vous avez la voiture électrique qui va avec en autopartage, dont la charge est assurée par des panneaux photovoltaïques. Bon, alors, c'est poussé à l'extrême, évidemment, mais enfin, on voit bien qu'il y a cette tendance-là. Et puis, il y a sur l'existant, et je conclurai là-dessus, finalement, plein d'espaces sous-utilisés ou mal utilisés. Je pense à mon expérience de président de l'immobilier des chemins de fer, qui a 100 000 logements. En fait, il y a tous les locaux collectifs résidentiels qu'on a commencé à construire à partir des années 60, qui sont aujourd'hui désertés par les associations. Pourquoi ne pas en transformer une partie en espace de coworking dans les quartiers, pour avoir du développement d'emploi, d'activité, pour permettre à des gens de revenir à l'emploi sans avoir à faire des heures et des heures, enfin peut-être pas des heures, mais des dizaines de minutes et des dizaines de minutes de transport en commun.
Un mot de conclusion, une minute, Christian Clairet, ou ça va, vous êtes satisfait de ce magnifique échange ?
Bon, écoutez, non. Mon mot de conclusion, ce sera pour remercier nos invités, nous avoir nourris d'un brin d'optimisme quand même, pour souligner le fait que parmi les idées qui sont soulevées, certaines peuvent sans aucun doute prospérer. Et, voilà.
Oui,
mon seul mot, ce sera merci.
Merci beaucoup d'avoir posé les termes de ce débat, des sujets inépuisables sur l'immobilier, partie prenante de la mobilité renouvelée. Je rappelle, nous étions avec Christian Clairet, Éric Charéron, Benoît Quignon. Merci messieurs pour ces échanges. Merci de nous avoir suivis.
L'immobilier, partie prenante de la mobilité renouvelée, une table ronde au service du développement de territoires plus responsables et plus désirables, à retrouver sur Radio Immo et Radio Territoria.